Il y aura bientôt un an, à la fin de l'année dernière, aux obsèques d'une amie, une paroissienne, que j'avais accompagnée tout au long de son combat contre le cancer, dû au tabac, j'avais fait son éloge. J'avais dit que c'était une sainte. C'était l'avis d'ailleurs de la plupart de ses petits-enfants, qui étaient pleins d'admiration, d'abord pour sa piété. Une femme extrêmement pieuse. Et on ne peut pas être saint si déjà on n'est pas pieux, si on n'a pas au minimum l'adoration de Dieu. Mais également pour son courage, et puis son dévouement, sa générosité. Et puis, quelques personnes de l'assistance avaient récriminé entre elles. On lui a murmuré, leurs propos bien sûr m'avaient été rapportés. Et disaient à peu près en substance, disaient, ça se voit qu'il ne travaillait pas avec elle. Je connaissais ses défauts. Les défauts n'empêchent pas la sainteté. À notre mort, le jugement ne portera pas sur nos qualités, nos défauts. Il portera sur l'amour. Nous serons jugés sur l'amour. D'abord, l'amour de Dieu. C'est ça la foi catholique. L'amour de Dieu et l'amour du prochain qui est indissociable. Et nous serons jugés sur le travail que nous aurons fait sur nos défauts, en s'appuyant évidemment sur nos talents, nos qualités, pour pouvoir aimer. Aimer toujours davantage, c'est ça le chemin de notre vie. C'est cela la dynamique que j'évoquais dimanche dernier. Cette dynamique qui est notre chemin vers Dieu, notre chemin vers la vie heureuse. Que cherchez-vous? Voilà ce que régulièrement l'Esprit, le Seigneur nous demande. Que cherchez-vous? Parfois, dans la Bible, les paroles sont plus directives. Cherchez Dieu tant qu'il se laisse trouver, dit le prophète Isaïe. Et dans le Sermon sur la montagne, Jésus le dit très clairement, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur notre recherche de Dieu et de sa justice. Et c'est bien ce qu'il y a d'étonnant dans cette parabole, dans l'éloge tout à fait déconcertant que ce maître fait de son gérant. Où est l'amour? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il voit que nous ne voyons pas? Qu'est-ce que ce maître voit que nous ne voyons pas? Il voit un homme qui veut vivre, qui veut survivre. Évidemment, tous les moyens ne sont pas bons, mais ce désir, cette envie de vivre, c'est la condition de base, c'est le point de départ. Et nous devons sans cesse demander au Seigneur, « Seigneur, ravive en nous ce désir, cet amour de la vie, sans lequel il n'y a rien de possible. » Cet amour de la vie est converti effectivement notre cœur, converti notre regard, pour que cet amour de la vie se tourne vers toi. Il faut reconnaître au personnage de cette parabole une certaine humilité. Une certaine humilité dans la façon dont il se reconnaît, il se sait, il se reconnaît incapable de faire le plus beau métier du monde, le travail de la terre, nourrir les autres, ce qui devrait être au cœur de toute société humaine. Il le dit, je n'en aurai pas la force, la façon dont nos générations disent, oh là, c'est trop dur, plus personne ne veut le faire, c'est pas nouveau. 2000 ans, déjà, il disait, je n'en aurai pas la force. Il a cette relative humilité, il a également, il tient également à sa dignité d'homme. Sa dignité d'homme en mesure et en état de travailler. Mendier? Non. J'aurais honte. Non, c'est contraire à ma conscience, je suis en état de travailler. Et il a cette idée, proprement inspirée, on peut dire, cette inspiration, de se tourner vers les autres. De se tourner vers les autres, ce qui lui permet de franchir ce cap, ce tournant phénoménal, comparé à la façon dont jusqu'à présent il dilapidait les biens de son maître. peu comme dans la parabole dimanche dernier du fils prodigue. Il ne faisait que dilapider, que du gâchis. Là, il va franchir un cap énorme. Il se tourne vers les autres. D'autres prisonniers de l'argent, des débiteurs, endettés. Et non seulement il s'apprête, il va leur faire confiance, mais ce faisant, il se fait leur égal. Il se reconnaît semblable à eux, c'est-à-dire en dette. Et c'est le propre du croyant, c'est ce que nous avons tous de commun pour venir ici. Nous savons ce que nous devons à Dieu. Voilà ce que peut dire tout croyant, je sais ce que je dois à Dieu. Je sais la confiance qu'il me fait, qu'il m'a faite, qu'il a mise en moi, qu'il a mise en nous, en chacun de nous, et qu'il nous maintient même quand nous n'en sommes plus dignes. Cette confiance qu'il nous demande de faire à notre tour les uns aux autres. Décidé à survivre, cet homme ne va pas chercher à voler au sens de s'emparer de biens matériels, les mettre de côté en se disant « je vais pouvoir les revendre ». Non, il fait venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître, et nous savons très bien ce que signifient les dettes. Dans la Bible, dans l'Évangile, ces dettes ont un nom, ça s'appelle des péchés. C'est comme ça que saint Matthieu rapporte, retranscrit la prière du Notre Père, la prière du Seigneur. « Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. » Alors évidemment, cet intendant n'avait pas le droit, c'est effectivement encore plus, c'est moins malhonnête, mais il n'avait pas le droit, ne pouvait pas, qui plus est après sa disgrâce, remettre une partie de leur dette aux débiteurs de son maître. Il n'en avait pas le pouvoir, il n'en avait pas reçu le mandat explicite. S'il fallait une comparaison, comme nous prêtres, nous avons reçu ce pouvoir et ce mandat explicite de rémission de tous les péchés, pas d'une partie, de tous les péchés, à tous les baptisés confirmés qui se tournent vers Dieu. Il n'en avait pas le droit, mais il en avait perçu l'esprit. Et cela, mes amis, c'est la révolution de l'Évangile. La révolution de l'Évangile, c'est de considérer que l'esprit est plus important que le droit. L'esprit est plus important que le droit. Alors on dit, mais il faut choisir entre les deux il n'y a rien. Si, entre les deux il y a la morale. La morale également est plus importante que le droit, ou plutôt elle donne son sens au droit. C'est justement ce qui nous désoriente aussi dans tant de dispositions légales qui n'ont rien de morale. Non, la morale est plus importante que le droit, mais elle est également, elle aussi, inférieure à l'esprit. Et pourtant, c'est ce que nous faisons, c'est ce à quoi nous arrêtons quand nous sommes choqués par cette parabole. On dit non, mais c'est très choquant quand nous jugeons, quand nous faisons ce que nous n'arrêtons de pas faire, de la morale, de la morale, de la morale. Nous nous arrêtons à la morale au lieu d'entrer dans l'esprit. Et voilà ce qu'il nous faut sans cesse remettre en ordre. Le droit, le bien et l'esprit. Le droit au service de la société, sans lequel nous ne pouvons pas vivre en société. La morale au service du bien et l'esprit au service de Dieu. Et voyez, nous le savons très bien, chaque pas compte. Et bien sûr, ce que fait cet intendant ici, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais, comparé à ce qu'il faisait avant, c'est déjà mieux. Pas bien, mais c'est déjà mieux. Et l'étape suivante? L'étape suivante, elle dépendra de nos prières.